Actu SF, les podcasts.
Bonjour, ben merci d'être là donc pour parler de Franz Kafka. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de Kafka, je suis un lecteur comme beaucoup ici, j'imagine. J'ai écrit un roman sur Kafka qui s'appelle Kafka à Paris parce que en relisant son journal, je m'étais rendu compte que le jeune Franz Kafka était avec son ami Max Brod parti en vacances à Paris pendant une semaine. Et durant cette semaine à Paris, donc, Apollinaire avait été accusé d'avoir volé la Joconde. Et les futuristes, avec Marinetti en tête, avaient débarqué avec scandale, violence à Paris. C'était une semaine rêvée pour un romancier. Et pendant que j'effectuais mes recherches, je me suis rendu compte que Franz Kafka ne ressemblait pas au Kafka français. Alors ça, c'est très important. C'est que son premier et longtemps unique traducteur en France, Alexandre Vialat, a pris le parti de faire de Kafka une espèce de figure sombre, tuberculeuse, ce qu'il a évidemment été. Mais longtemps, Kafka était quelqu'un d'athlétique, il faisait de la boxe, il faisait de la rame, il allait au bordel, ce qui quand même pose un questionnement par rapport à son rapport, paraît-il, compliqué avec les femmes. Et surtout qu'il était très drôle. Alors bon, c'est de l'humour de Kafka, c'est un humour juif et qui plus est de Prague, puisque pour ceux qui connaissent ses textes, par exemple, il n'avait pratiquement pas réussi à finir la lecture de La Métamorphose, tellement il était pris d'un fou rire. Bon. Quand on sait qu'il s'agit, on va en parler d'ailleurs dans quelques minutes, d'un roman où un homme se transforme en cafard, en vermine, on ne sait pas trop, et qu'il est rejeté par sa famille, y voir quelque chose de drôle est drôle, en fait. Et donc, Kafka n'est pas Kafka, ou Kafka n'est pas notre Kafka, ce qui pose effectivement une question de limite. Quand est-ce qu'on doit trouver un auteur? Quand est-ce qu'on doit mélanger le vécu, plus ou moins connu, et la réalité de ce qu'il écrit? Alors, il y a déjà, par exemple, des éléments qui sont intéressants, qui peuvent faire tomber des bibliothèques entières d'études, d'exégèses sur Kafka. Donc, il était jeune, dynamique, vigoureux. Bon, il avait un père écrasant, c'est vrai, et ça va beaucoup influencer son écriture. Dans la lettre à son père, Kafka dit cette phrase magnifique. Il s'adresse à son père, pas à ses parents. Il dit « Je suis le fruit de votre éducation et de ma désobéissance. » C'est magnifique. C'est une phrase magnifique. Et c'est ce qu'il est, d'ailleurs. Le père de Kafka avait évidemment ses mérites. C'est, en premier lieu, d'avoir nourri sa famille à une époque où c'était difficile, mais c'était une brute. C'était un personnage brut qui n'a jamais vu qui était la personne derrière son fils. Il voyait quelqu'un en bout de table et ne voyait pas Franz Kafka. Et ça, ça l'a beaucoup peiné, ça l'a beaucoup meurtri. Et par exemple, une anecdote que rapporte Franz Kafka, lorsqu'il a publié un de ses premiers textes, c'était un aboutissement, il avait peiné à l'écrire. Donc il était très content de le remettre à son père et son père lui a dit « pose-le sur la table de nuit ». C'est à peu près le seul commentaire qu'il ait jamais eu sur ce qu'il écrivait. Autrement dit, c'est un personnage compliqué, joyeux, beaucoup moins mystérieux que ce que l'on peut croire, et qui, en fait, se servait beaucoup de son vécu pour écrire ses contes et ses récits. Alors, comme vous le savez, il travaillait dans une compagnie d'assurance, il était docteur en droit. Donc, on rêve de retrouver les rapports écrits par Kafka, parce que ça devait être très drôle, il paraît qu'ils étaient très bien écrits. Et par exemple, l'homologue, l'avatar de Kafka dans ses récits, c'est Joseph K, ou, ça dépend des textes, tout simplement K. Donc on s'est demandé, est-ce que c'est pas tout simplement Franz, ce serait simple. Et en fait, non. Alors que je préparais le roman, j'ai tout simplement eu la curiosité d'aller voir les noms des collègues de Kafka. Il se trouve que celui qui était assis en face de lui dans le bureau s'appelait Joseph Kratzig, Joseph K. Donc vous voyez, on peut d'une certaine manière dynamiter le Kafka qu'ont inventé les Français. Une sorte de Kafka existentialiste, une sorte de pré-Camus, vous voyez, pré-philosophie d'absurde, ce qui n'était pas du tout. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en revue quelques récits et de vous en faire le pitch, comme on dit, puis une analyse. Mais j'estime n'avoir aucune autorité sur la lecture de Kafka. On peut lire ce qu'on veut. Je vais vous proposer ma lecture de Kafka, tout simplement. Donc, j'ai pris quelques textes, pas trop. Déjà, on peut faire une première remarque, c'est que beaucoup de textes de Kafka, parmi les plus importants, comme Le Verdict ou La Métamorphose, bien sûr, et surtout et avant tout Le Procès, beaucoup de textes de Kafka commencent tôt le matin. Alors, on peut se demander pourquoi. Et en fait, il est possible que ce soit tout simplement parce que Kafka faisait des rêves qu'il ne considérait pas d'ailleurs comme des cauchemars, qui sont pour nous abominables. C'est-à-dire que peut-être que les récits de Kafka commencent le matin parce qu'ils sont en jonction, en fait, avec ce qu'il a rêvé durant la nuit. Alors, j'ai pris quelques exemples de rêves de Kafka. Par exemple, il est envahi. Là, on ne parle pas de sa création, hein, on parle de sa vie intérieure. Il est envahi, étouffé par des lettres. Beaucoup de rêves de dents, des rêves de chiens agressifs, des rêves de prostituées, des rêves de femmes qui sont marquées dans leur chair, une excroissance ou une cicatrice qui n'était pas là, qui n'est plus là, etc. Beaucoup d'exemples aussi de jeunes filles aveugles. Alors, c'est intéressant quand on sait que, par ailleurs, dans ses lettres à Félix, notamment, Kafka estime qu'elle ne le voit pas comme il est vraiment, à savoir, méprisable. Donc, une sorte de résonance entre ses rêves et la réalité. Alors, là aussi, des rêves de femmes modifiées, par exemple, des visages qui sont flous dans le rêve. Donc, la vie onirique de Kafka permet de comprendre un peu mieux, peut-être, pourquoi de nombreux récits démarrent le matin. Alors, je vous propose de commencer par un texte qui a été publié du vivant de Kafka et qui s'appelle Le Verdict. Il était publié en 1913. Alors, ça commence qu'un certain Georg, veut écrire à un ami qui est parti à Saint-Pétersbourg pour lui donner des nouvelles. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas échangé. Et donc, Georges dit à son ami, ben voilà, j'espère que tu vas bien, je sais que tu n'es pas bien à Saint-Pétersbourg. Ici, ça va, les affaires vont bien depuis la mort de maman et je veux t'annoncer mes fiançailles avec Frida. Voilà. Sur ce, arrive Frida et qui lui dit « Qu'est-ce qui te prend de raconter notre vie à ton ami ?» Et lui dit « Écoute, c'est la moindre des choses, on était très amis. C'est la moindre des choses que non, moi, je ne le connais pas, je ne veux pas que tu me parles de ton ami. » Ce n'est pas de lui que je parle, c'est justement précisément de nos fiançailles que je l'avertis. Bon, et puis Georges quitte la salle et va voir son père qui est dans une pièce à côté. Il voit peu son père. Ils travaillent ensemble. Les affaires sont florissantes, mais l'ambiance n'est pas vraiment là. Et donc, Georges dit à son père, « Ben voilà, j'ai écrit à mon ami, tu le connais, tu sais, tu te rappelles de lui. » Et le père dit, « jamais entendu parler. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as pas eu un ami comme ça? Alors Georges se dit, oula, mon père, que je croyais solide, qui est mon associé dans les affaires, ça va pas du tout, là. Enfin, tu peux pas l'avoir oublié, c'est mon... Non, je ne sais pas de qui tu parles. Et puis, il vaudrait mieux qu'on parle de Frida, cette fille de rien avec qui tu vas te fiancer. Oh là, oh là, dit Georges. On va s'en tenir là. Et le père lui dit, de toute façon, de fait, tu es mon fils, mais tu ne vaux rien et j'aurais préféré avoir comme fils ton ami. Donc Georges est interloqué et le père lui dit « D'ailleurs, écoute, j'en ai assez de te voir, sors de ma chambre, sors de la maison, va te noyer. » Et à la fin du récit, Georges, qui a un fils obéissant, va sur le pont, se jette à l'eau et se noie. Fin du récit. Et là, on se dit c'est écrit en 1913. Il y a des changements d'identité tout le temps. Le père ne connaît pas cet ami, mais son fils, qu'il ne reconnaît pas comme fils, vaut moins que cet ami, qu'il aurait préféré avoir comme fils. Et je me dis, sans forcer les choses, hein, c'est ma lecture, mais c'est très contemporain. Enfin, Philippe K. Dick commence en 1954 avec Le Père truqué. Mais on est déjà là. Et puis surtout, ça annonce des tas de thématiques, notamment le fait de vivre dans le regard des autres. Bien sûr, on est attentif à être soi, si tant est que ça veut dire, mais les autres, le regard des autres, capture une partie de notre identité. On est redevable des autres de ce qu'ils, eux, estiment être notre identité. On ne peut pas être indifférent au regard des autres, on est perméable au regard d'autrui, au point d'ailleurs que s'il y a suffisamment d'autorité dans le regard de l'autre pour dire ce que vous avez à faire, eh ben vous le faites, quitte à se noyer. Alors, il y a quand même dans cette version tragique un petit ajout à faire, qui est que c'est Max Brod, le grand ami de Kafka, qui raconte que quand Franz Kafka a lu cette nouvelle à Max Brod, il lui a dit « Il faut considérer la chute, littéralement, il se noie, comme une monumentale éjaculation. » Alors, bon, il y a le barrage de la traduction, il y a le barrage de l'amitié entre Brod et Kafka. Est-ce que c'est un private joke? On ne sait pas, mais... Qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça désamorce complètement la lecture atroce qu'on pourrait en avoir. Une éjaculation, c'est le renouveau. On se rappelle qu'il y a Frida qui est la fiancée. Est-ce que c'est une nouvelle vie? En tout cas, voilà, je vous le laisse en l'état. C'est cette nouvelle qui s'appelle Le Verdict. Bon. Alors, puisqu'on en est dans le regard des autres, etc., on ne peut pas faire sans La Métamorphose, qui est l'un des plus connus récits de Franz Kafka. Alors, le récit La Métamorphose a lui aussi été publié du vivant de l'écrivain. Et je pense que tout le monde connaît plus ou moins La Métamorphose. Alors, pour mémoire, un matin, il ne faut pas être personnage de Kafka le matin, hein, ça tourne mal. Un matin, il y a Gregor Samsa qui se réveille dans sa chambre. Et sa chambre... Elle a trois portes qui donnent sur différentes pièces de l'appartement. Petit détail, la chambre de Franz Kafka qui vivait chez ses parents avait trois portes qui donnaient sur différentes pièces de l'appartement. Bon, donc Gregor se réveille et, oh dis donc, surprise, il est transformé en cafard géant. Ou en vermine, ça dépend de la traduction qu'on veut donner, mais en pas bon, quoi. Il est transformé en cafard géant, mais il a toute sa conscience. Il est encore totalement Gregor Samsa. Bon. Comme il est en retard, et, détail important, comme c'est lui qui fait vivre sa famille, ses parents et sa sœur s'inquiètent, tambourinent à la porte, ouvrent à la porte, hurlement, horreur, frayeur, c'est un cafard géant. Bon. que faire? Vous aviez un enfant, un frère, un fils, aimé, Kafka insiste, un garçon gentil qu'on aimait, qui était soutien de famille, et nous revoilà maintenant avec ce truc, rien dans la vie nous a préparé à ça, qu'en faire? Alors bien sûr, on va le cacher, et surtout par peur du qu'en dira-t-on, on va rien dire. Bon. Le problème, c'est que Grégor, qui est employé à la banque, son absence, et visiblement il est bon au travail, son absence fait que son patron arrive, se demande est-ce qu'il est malade, etc. Il force la porte de la chambre et voit Grégor qui, entre-temps, commence à perdre un peu sa conscience humaine. Bon, le directeur est horrifié, etc. Et les parents commencent à développer une sorte de rancœur à l'égard de Grégor, parce que à cause de lui, maintenant on va parler autrement de la famille. Bon, la situation, au fur et à mesure que la conscience de Grégor se dégrade et qu'elle perd toute humanité, la situation dégénère au point qu'on le père a recours à la violence et notamment bat à coup de bâton Grégor, et même lui lance une pomme qui vient s'incruster dans la carapace et qui s'infecte. Bon. Et là, donc, on a Grégor, jadis fils aimé, fils aimant, qui est dans sa chambre, reclus, et le reste de la famille qui se recompose en une cellule de trois. Et sa petite sœur, qui était très gentille, qui était en admiration de son grand frère, commence à dire que ce n'est pas possible, on ne va pas pouvoir vivre comme ça, et donc qu'il serait bon d'éliminer, de se débarrasser de Grégor. Et chose qui arrive, Grégor meurt, infini soulagement de la famille, et du coup, les parents vont travailler, chose qu'ils ne faisaient pas puisque Grégor subvenait aux besoins de tout le monde, et la petite sœur va pouvoir se marier, donc une fin heureuse. Fin heureuse de l'histoire. Bon. Alors, un cafard géant. Moi, quand je lis La Métamorphose, je pense à Descartes, aux méditations métaphysiques, quand Descartes feint d'être à bout d'arguments et dit si on peut douter du monde entier, imaginez qu'un malin génie nous a introduit dans la tête l'idée que l'univers existe alors qu'il n'existe pas. Bon. Ça veut dire n'importe quoi, peu importe la raison, imaginons que. Et je pense que le cafard géant ou la vermine géante qu'est Grégor, ça veut dire peu importe, imaginons que. Et imaginons que, ça peut aller très loin. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Grégor? Tout allait bien, et tout à coup, le corps de Grégor change. Alors déjà, personne a le corps qu'il voulait, pour la bonne raison qu'on naît avec un corps et que l'on naît un corps, on apprend à domestiquer son corps, à s'approprier son propre corps. Vous êtes beau, tant mieux pour vous. Vous êtes laid, c'est comme ça. Vous êtes en bonne santé, tant mieux pour vous. Et vous êtes malade, c'est comme ça. Puis si vous êtes laid et malade, ça commence à faire lourd. Il vaut mieux croire au karma parce que ça se prépare mal. Et en fait, c'est ça. Grégor, c'est n'importe lequel d'entre nous. C'est n'importe lequel d'entre nous qui, du jour au lendemain, découvre une anomalie dans son corps. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une terrible maladie de peau. Ça peut être un cancer, ça peut être une découverte autre de son genre. Ça veut dire que du jour au lendemain, mon corps, tel que j'avais appris à vivre avec, n'est plus. Et que donc, il faut que je me recompose une identité. Et peut-être que si Grégor, on l'avait laissé vivre, il aurait mené sa vie nouvelle en parfaite harmonie avec son corps, avec son environnement. Seulement, il y a le regard des autres. Et le regard des autres, ce n'est pas n'importe quel regard, c'est le regard de proches, c'est ses parents et de sa sœur aimante. Et du jour au lendemain, Grégor n'est plus celui que l'on voulait. Ce qui compte, ce n'est pas que Grégor ne soit pas lui, ce n'est pas que Grégor affronte un problème intime qu'il est le seul à affronter, non. Ce qui compte dans la métamorphose, c'est comment maintenant on va vivre avec Grégor. Et comme ce qu'il est devenu ne nous plaît pas, eh bien on l'ignore. Il est mis dans, symboliquement, il est enfermé quand même dans une pièce où il y a trois portes, mais il n'en sort pas. Et on apprend à détourner la tête, on apprend à ne plus l'entendre, on essaie de masquer son dégoût à l'égard de celui qu'on aimait jusqu'à maintenant, mais qui n'est plus tel qu'on voulait, sans lui donner la possibilité de devenir ce qu'il pourrait être. Et je trouve que c'est une superbe parabole qui ne tient pas tellement dans le fait que Grégor est devenu un animal, peu importe. Ce qui est important, c'est que Grégor est devenu, mais qu'il n'est pas devenu ce que moi je voulais en tant que part, ce que moi je voulais en tant que sort qu'il soit. Et je pense que c'est un très très beau récit, en plus évidemment qu'il est dans les genres qui nous intéressent, dans la science-fiction, à l'origine de toute une tradition. Hein. Par exemple, la nouvelle La Mouche de Georges Lenglen, qui a donné notamment le film de Cronenberg, provient directement, à mon avis, de la métamorphose. Mais c'est un très beau récit, au risque de me répéter, parce qu'il ne repose pas sur la forme, sur les moyens utilisés dans le récit, mais il repose sur le fond, et c'est un fond, je crois, qui peut nous affecter tous, c'est chacun de nous, un jour, peut changer radicalement, et ce changement radical peut amener à une vie nouvelle. Est-ce qu'elle sera bonne, est-ce qu'elle sera mauvaise, je ne sais pas, mais c'est ma vie et je dois la vivre. Mais pour les autres, elle est peut-être condamnée d'entrée parce qu'elle n'est pas la vie dans laquelle on t'avait étiqueté, on t'avait rangé. Et je trouve que c'est un très, très beau récit. Alors, puisqu'on en est toujours dans le corps, et dans, c'est très, très présent hein, chez Kafka, je propose maintenant de parler d'un texte qui s'appelle « La colonie pénitentiaire », là aussi paru du vivant de Kafka. Alors, là aussi, un texte qui est étonnant de modernité. Alors, la nouvelle démarre sur un personnage qui sera connu que sous le nom de l'explorateur, qui arrive sur une île qui est un bagne, une île pénitentiaire. Donc on peut supposer, sans trop forcer les choses, que c'est français. Hein, il n'y avait que nous qui avions Cayenne, etc., là où on a mis Dreyfus. Mais bon, comme c'est jamais dit, on laisse tomber, on se contente de dire que c'est une île pénitentiaire. Et donc il y a un personnage qui arrive, l'explorateur, et un officier lui propose de lui faire la démonstration de la machine. Bon, donc il y va, et la machine ressemble à une sorte de métier à tisser, avec des plans verticaux et de grandes aiguilles qu'on peut actionner. Bon, et à côté de la machine, il y a un détenu, qui tour à tour est appelé le détenu ou le condamné, et un garde, voilà. Et l'officier explique à l'explorateur que cette machine a été mise au point par le commandant, mais pas le commandant actuel, le commandant qui n'est plus. Et on comprend que l'officier est fidèle, en fait, à l'ancien commandant. Et que le commandant actuel trouve la machine barbare, il voudrait la supprimer, et donc l'officier dit à l'explorateur, puisque vous allez dîner tout à l'heure avec le commandant, ce serait bien que vous ayez quelques mots aimables sur la machine. Et l'explorateur dit « Oh, 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 moi je ne sais pas ce que je vais dire, voyons. » Et donc, on va voir. Et la machine, en fait, consiste à étendre un condamné sur le plan horizontal. Et en actionnant un processus automatique, les aiguilles tatouent la peine sur le condamné. Et en général, l'incision continuelle, la perforation continuelle des aiguilles, plus l'encre absorbée par l'organisme, fait que l'individu ne résiste pas à l'expérience. Bon. Et il arrive à un message qui dit que, en fait, c'est annulé, il n'y aura pas d'expérience aujourd'hui. Pendant ce temps, pendant cette discussion, le condamné qui était pris de haut par la sentinelle qui le gardait commence à discuter, à plaisanter avec la sentinelle. Si je me souviens bien, il partage même une espèce de collation. On se croirait vraiment dans une pièce de Beckett. Hein. On voit ça très bien, comment ça peut être monté sur scène. Une espèce de machine à tisser, 3-4 personnages, et puis c'est tout. Bon. Donc, il y a contre-ordre, il n'y aura pas... Et donc, l'officier, persuadé, convaincu du bien fondé de la machine, fidèle à son ancien commandant, se déshabille intégralement, se met dans la machine, actionne la machine et finit perforé de mille façons. Mais on ne sait pas quelle peine est tatouée sur le corps. Bon. Et c'est la fin de l'histoire. Bon. Tellement à dire que... Déjà, c'est une pièce très moderne. Je vous rappelle, c'est 1913. On est à une année du premier conflit mondial. Et deux éléments qui semblent prophétiques sont contenus dans le récit. Le premier, c'est l'obéissance aveugle à l'autorité reconnue. Et l'autre, c'est l'usage de la technique. On a un jeune officier... et dont on comprend qu'il est parfaitement honnête et que c'est même un bon officier. Il n'y a aucune once de méchanceté dans l'officier. L'officier est convaincu que son ancien commandant était un bon commandant, que c'était un humaniste, que cette machine avait été créée pour le bien de l'humanité et que l'actuel commandant n'est pas capable de comprendre les choses. Et donc... ce jeune officier est prêt à mourir pour une autorité qu'il a reconnue, et cela de manière extrêmement moderne, à travers une machine. Et puis surtout, au-delà, on en arrive à un thème qui est bien sûr très présent chez Kafka, qui est le thème de la justice. Parce que qu'est-ce que nous raconte la nouvelle ? Si on abstrait tous les éléments narratifs, toute l'intrigue, etc., c'est que lorsque vous êtes condamné par la société, vous êtes marqué. Et une fois que vous êtes marqué, vous n'êtes plus vous, votre identité disparaît derrière la peine. Vous devenez votre crime. Il est inscrit en vous et vous ne serez jamais plus autre chose. Et je trouve que c'est une approche extrêmement moderne et absolument pas cynique, mais au contraire... très réaliste de la conception moderne de la technologie, de l'ingénierie et d'une justice qui est froide. Ça va pour l'instant ou... Alors, je ne sais pas quelle heure il est parce que j'aimerais bien faire le tour. Alors, on en arrive évidemment maintenant aux œuvres proprement... relative véritablement à la justice chez Kafka, vous avez notamment une parabole qui s'appelle la parabole de la loi. Alors, la parabole de la loi, elle a été, elle aussi, publiée du vivant de Kafka en 1915. Et elle est un peu connue parce qu'elle a donné lieu à un très beau dessin animé, notamment. Donc, la parabole de la loi, c'est la suivante. Il y a un jeune homme qui arrive devant une porte... Et cette porte, elle est protégée par un gardien, elle est gardée par une sentinelle. Et l'arrivant, le nouveau venu, dit « Est-ce que je peux rentrer par la porte ?» Et la sentinelle lui dit « Oui, mais pas maintenant. » Bon, donc l'arrivant s'installe, il s'assoit pas loin... Et il retente. Et le gardien lui dit à chaque fois, oui, mais pas maintenant. Une autre fois, mais oui, tu pourras. Oui, bon. Et les années passent, c'est une parabole. Les années passent et il s'instaure une sorte d'intimité entre le gardien et cet homme qui fait que l'homme commence à se confier au gardien, il lui raconte des éléments de sa vie, etc. Le gardien, non, mais il écoute. Il écoute, il est attentif, il pose des questions, et donc une sorte de complicité forcée qui s'instaure entre les deux. Et puis le gardien lui dit, mais tu sais, une fois que tu auras passé cette porte, tu auras une autre porte et encore une autre, et devant chaque porte, tu auras un gardien, et moi je suis le plus faible et le plus fragile des gardiens, alors c'est une masse. Hein. Bon. Mais l'autre dit, non, non, mais ok, mais le moment venu, je rentrerai. Bon. Et à la fin de la parabole, l'arrivant, qui depuis longtemps maintenant est un sédentaire devant la porte, est vieux, il entend mal, il est perclus de rhumatisme, et il dit au gardien, il ne pose pas la question habituelle, est-ce que je peux rentrer? Mais il dit, mais enfin, ça fait des années que je suis là, et jamais, jamais quelqu'un d'autre a essayé de passer cette porte, et pourquoi? Et le gardien enfin bouge, se rapproche du vieillard et lui hurle à l'oreille, parce qu'il n'y a que toi qui pouvais passer par cette porte, elle était réservée pour toi, mais comme tu ne l'as pas fait, je vais la fermer et je m'en vais. Fin de l'histoire. Bon. Là aussi, que dire? C'est quoi cette porte? Est-ce que c'est une parabole? Donc, bien sûr, pas de littéralité. Par la suite, Kafka l'a inclus dans son manuscrit qui a été publié à titre posthume, Le procès, mais elle fonctionne en soi. Il a d'abord publié en récit tel quel. Alors, je la comprends pas. Je la comprends pas parce que le premier réflexe, c'est de dire. C'est un chemin de vie. Il n'y a que lui qui peut emprunter la porte parce que chacun de nous doit vivre sa vie. Il ne peut vivre que sa vie. Il n'y a pas un autre qui peut la vivre à ma place. Bon, ok, mais dans ce cas, qui est le gardien? Et qui sont les autres gardiens plus forts qui se succéderont? Puis surtout, il n'est jamais dit. S'il y a un arrêt des portes ou si elles continuent à l'infini, et si par chance il y a une dernière porte, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est jamais dit. Alors, Max Brod, grand ami de Kafka, disait qu'il y avait une connotation religieuse souvent dans les œuvres de Kafka. Possible, mais c'est vrai que c'est parfois éclairant, mais il faut éviter quand même de tomber dans la surconnotation, par exemple, Kafka en France, c'est terrible. Il a été surréaliste, il a été existentialiste, il a été. Bien sûr, la psychanalyse, on a fait ses choux gras, et une lecture religieuse de Kafka, mais finalement, il vaut mieux abandonner toute interprétation et proposer chacune. Et effectivement, c'est peut-être tout simplement un chemin de vie, c'est-à-dire que. Vous arrivez, il y a une porte à franchir. Certains arrêteront là, et ils vivront une vie quand même. Ils auront des contacts avec l'autorité. Il y aura un échange poli, mais on restera à la première porte. Et puis d'autres, mais dont on ne sait rien, puisqu'on n'a jamais franchi la première porte, parviendront à la deuxième et à la troisième, etc. Reste la question, pourquoi franchir les portes? Je sais pas, c'est. Je dirais un jeu, l'amorce d'un jeu vidéo avant même que la notion de jeu vidéo existe. C'est passionnant. Il faudrait faire un jeu à partir de là. C'est tellement bizarre. Bon, en tout cas, la parabole de la loi, elle apparaît certie comme un bijou dans ce qu'on peut considérer comme le chef-d'œuvre de Kafka, qui est Le Procès. Alors, Le Procès est paru à titre posthume. Alors là aussi, ça pose beaucoup de questions, parce que c'est Max Brod qui a publié les textes de Kafka. Mais Kafka lui avait dit « À ma mort, il faudra brûler mes manuscrits ». Il avait dit à Brod, qui était son exécuteur testamentaire. Tout ça a été fait, Kafka étant docteur en droit, rien n'avait été laissé au hasard. Et Brod, qui avait toute la confiance de Kafka, qui aimait Kafka, n'a pas brûlé les textes de Kafka. Alors là, qu'en penser ? Ben, il a bien fait. Il a bien fait, parce qu'autrement, on n'aurait jamais eu le procès, le château, l'Amérique, les romans, quoi. Les grands romans de Kafka, on ne les aurait pas eus. D'autres textes. Et il a bien fait, pourquoi ? Ben, tout simplement parce que chez l'écrivain, on n'en a rien à faire de l'être humain. Je sais bien qu'en France, être écrivain, c'est l'autofiction, forcément. Tout s'explique. C'est ce qu'ils m'ont déjà entendu devant en avoir marre, c'est mon cheval de bataille. On s'en fout de l'être humain. Ce qui compte, c'est l'écrivain. Platon était à la cour de Denis le Tyran. Vous allez me dire, ça fait 2500 ans, on s'en cogne. Ouais, mais n'empêche qu'à l'époque, Platon y était avec Denis le Tyran. Et Platon, c'est Platon. Bon. Donc, qu'est-ce qui est grave ? Brod n'a pas tenu sa parole auprès de son ami Franz Kafka. C'est vrai. Mais il a sauvé un écrivain. Je sais pas, vous pouvez ne pas être d'accord. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger une fois que j'aurai fini de caqueter, mais il a bien fait, je trouve. Quoi qu'il en soit, nous voilà avec Le Procès. Alors, Le Procès commence tôt le matin, tiens donc, une fois de plus, avec boum, 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 on frappe à la porte, Joseph K. se réveille et il y a deux inspecteurs. Comment sait-on que ce sont des inspecteurs ? Parce qu'ils le disent, il n'y aura pas plus d'autorité. Deux inspecteurs qui arrivent et qui lui disent, bon, déjà qu'il y mange son petit déjeuner. C'est marrant parce qu'un écrivain de fantastique qui s'appelle Peter Straub reprendra à l'identique pour une très jolie nouvelle le début. Donc ils arrivent et commencent par manger le petit déjeuner de Joseph K. et lui disent, ben voilà, mauvaise nouvelle, vous êtes accusé. Et Joseph K. dit « Ah bon ?» Il ne dit pas quoi, il ne dit pas de quoi, il dit « Ah bon ?» Et ce qui est fascinant, c'est que Joseph K. dans le roman ne veut pas savoir s'il a été accusé à tort, il ne veut pas savoir véritablement, il pose une fois la question pour la forme, de quoi on l'accuse, il veut savoir comment il peut se défendre. Vous vous rendez compte ? C'est génial, déjà. On a un roman sur la justice où le simple fait de pointer quelqu'un et de dire « vous êtes accusé » fait qu'on est accusé. Et Joseph K. donc va entamer un long, pénible et stérile chemin pour assurer sa défense. Et il va passer de bureau en bureau avec à chaque fois... c'est ce qui a donné d'ailleurs le qualificatif de kafkaïen, c'est surtout dans Le Procès. Donc, Joseph K. va se prêter de manière extrêmement pointilleuse et formelle aux usages de la bureaucratie, bureaucratie qu'il ne connaît pas, qu'il a condamné. Et donc, il va chercher dans son bourreau, chez son bourreau, et même dans, puisque ça prend physiquement... l'apparence de couloirs interminables, de bibliothèques poussiéreuses, etc., il va chercher chez et dans son bourreau les moyens d'échapper à son bourreau. Bon. Le tout serti par des épisodes qui semblent complètement absurdes, notamment le juge, quand enfin il voit un véritable juge et non pas un de ses multiples avoués secrétaires totalement incompétents. Lorsqu'il voit le juge, celui-ci a un gros dossier devant lui. Et donc, Joseph K. pense qu'enfin, on fait cas de sa situation, et le livre est rempli d'images pornographiques, en fait. Le juge est en train de regarder sa collection porno. Bon. On pourrait se dire, bon, c'est rigolo, c'est un effet littéraire assez sympa. Sauf que non. Les images pornographiques du juge vont être dédoublées en tant qu'effet littéraire quand Joseph K. rentre dans sa propre administration pour travailler un peu, parce que sa protection, il l'assure entre les horaires de travail. Et là, il se rend compte que quand il ouvre un placard, il a un de ses supérieurs qui fouette deux avoués tout le temps. Quand on ferme le placard, on n'entend plus. Mais quand on l'ouvre, ils sont là. Et donc, Joseph K. dit que la situation commence à lui échapper complètement. Et le lendemain, il retourne dans son bureau, il ouvre le placard, et là, de manière très routinière, en fait, le bourreau est en train de fouetter les deux avoués. Bon. Et évidemment, la situation ne s'arrange pas. Et puis, à la fin de l'année, pratiquement jour pour jour, à la veille de son 31e anniversaire, Joseph K. est égorgé par les deux mêmes inspecteurs qui étaient venus lui annoncer sa culpabilité. Fin de l'histoire. Voilà. Bon. Alors déjà, le début, c'est un matin. C'est le matin du 30e anniversaire de Joseph K. Or, 30 ans, c'est l'âge où le Christ commence son ministère. Il meurt à 33, mais symboliquement, c'est un chiffre important. Il meurt un an pratiquement jour pour jour la veille de son 31e anniversaire, mais c'est une année qui est pratiquement une journée symbolique, en fait. Ça pourrait tout se passer en manière condensée en une journée. Et puis, ça nous dit plein de choses, quand même. Beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on est forcé d'avoir recours non pas à une simple explication, ça voudrait dire ça, mais plutôt à un croisement, à un foyer d'explication. Alors, la première, peut-être la plus facile, c'est l'explication religieuse, puisque Broad nous dit que ça tenait à Kafka, ben allons-y. Bon. Alors, qu'est-ce qui serait quoi ? Ben, en fait, on pourrait, si on privilégie une approche religieuse, se dire que c'est une sorte d'allégorie, de métaphore du péché originel. Voilà. Vous naissez, vous êtes coupable. Vous ne savez même pas de quoi, vous n'avez rien fait, mais vous êtes coupable. Et le but, c'est d'essayer de comprendre par ses actions, au sein du système qui est la vie, en fait, en quoi vous êtes coupable et de faire en sorte que vous soyez le moins coupable à la fin, mais à la fin, vous mourrez. Bon, ça se tient. C'est une comparaison qui se tient entre l'approche religieuse et le roman de Kafka. Moi, elle me gêne parce que, tout simplement, Kafka est juif, et ça, c'est une explication chrétienne. Ça ne colle pas. Alors que l'explication littérale, c'est-à-dire on a affaire à un système de justice, elle tient beaucoup mieux. Parce que justement, ça renvoie à une loi beaucoup plus âpre, beaucoup plus dure, qui est celle de la Torah, celle de l'Ancien Testament. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire ? On a un système qui est la justice. Mais la justice, comme son nom l'indique, c'est ce qui est juste. Et qu'est-ce qui est juste autre que la justice ? Ben, les maths, par exemple. Si vous dites 2 plus 2 égale 4, c'est juste, c'est exact. C'est-à-dire que la justice, quand elle est à son maximum, elle devient synonyme d'exactitude. C'est-à-dire pas plus, pas moins. C'est écrit là, ça correspond, on ne cherche pas de circonstances atténuantes, on ne cherche pas à comprendre, c'est juste. Autrement dit, la justice qui est décrite dans le procès de Kafka, c'est un idéal de justice. C'est la justice parfaite. C'est une justice qui ne s'embarrasse pas, notamment, des circonstances atténuantes. Il t'arrive ça parce que tu as connu tel malheur, telle tragédie, on n'en a rien à faire. 2 plus 2, c'est égal à 4. 2 plus 2, ce n'est pas égal à 3,9 ou 4,1 parce que tu as perdu ta mère ou parce que tu es malade. La justice de Kafka, c'est la justice juste. Et donc, c'est une justice inhumaine, puisque le propre de l'humanité, c'est l'inexactitude. On est toujours au-delà de l'ici et du maintenant. Pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de vous dire aussi vivement que ça s'arrête. Ce soir, je vais continuer à regarder ma série sur Netflix ou merde, le retourne et je dois aller acheter du pain. On n'est jamais intégralement et immédiatement là. On est beaucoup plus que ce que l'on est ici et maintenant. Donc, si on avait affaire à une justice juste, ce serait le procès de Kafka. C'est-à-dire qu'on aurait la disparition de toute humanité au profit d'un système exact. Et ce qui manque énormément à dessein, Kafka sait exactement ce qu'il fait, ce qui manque à dessein dans le procès de Kafka, c'est la charité, tout simplement. Et la charité, c'est justement l'au-delà, le surcroît de la justice, parce que la charité, elle est inexacte. Quand on fait la charité, on est injuste. Parce que ce que l'on fait pour lui ou pour elle, on ne le fait pas pour un autre. Et alors, parce que c'est injuste, on ne devrait pas le faire? Évidemment non. Et donc, par un étrange renversement, il apparaît que la justice, on est toujours en train de se dire « ouais, c'est injuste, il n'y a pas de justice dans notre société ». Si la société était juste, ce serait l'enfer. Et ce qui est injuste, comme la charité, le plus que personne ne m'oblige à faire, mais que je veux faire pour toi maintenant, et toi je ne peux pas parce que je ne te connais pas, ou ce sera demain, ou je ne peux pas, on le fait. Autrement dit, dans certaines circonstances, il vaut mieux l'injustice que la justice, il vaut mieux la charité que le silence du bien-pensant qui fait rien parce que ce serait injuste. Voilà. Et puis, ce n'est pas une interprétation, c'est tout simplement un constat fascinant de la part de Kafka. Bon, Kafka était tchèque. Hein. C'est l'incroyable mais prophétie du procès par rapport à notre histoire. Enfin, si je vous dis, imaginons un régime en Europe de l'Est où il y a un système qui a défini une bonne fois pour toutes ce qui est juste. Et qui dit à quelqu'un un matin, il y a la police qui arrive, boum, 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 on frappe à la porte, et les agents rentrent et disent « tu es coupable ». Et dans ce système, la personne ne dira jamais « eh oh, coupable de quoi ?» mais « comment je peux faire valoir mon bon droit ? Comment je peux me protéger ?» Et qui, à la fin, fait que le coupable, parce que c'est le cas dans le procès, si je me souviens bien, c'est Joseph K. qui fournit le couteau qui va permettre de l'égorger. Et donc, un système qui fait que non seulement à la fin, le condamné accepte son statut de condamné, mais le revendique et est reconnaissant auprès de l'autorité qui le condamne pour avoir vu juste. C'est les grands systèmes totalitaires du XXe siècle. C'est fascinant. Il est publié à titre posthume en 1925. Hein. C'est incroyable. Voilà, voilà. Bon, et enfin, le dernier que je voulais vous présenter, c'est, ça va aller plus vite, rassurez-vous, Le Château. Alors, Le Château, là aussi, parution posthume en 1926, donc l'année d'après, toujours Max Brod aux commandes. Alors, Le Château est un récit qu'on pourrait qualifier, si on voulait être grossier, de fantaisie. C'est un récit de fantaisie. Bon. Y a un personnage qui s'appelle K, vous voyez, des constantes hein, quand même, qui arrive un jour dans un village et qui dit au village, voilà, le château, énorme construction qui surplombe le village, le château m'envoie, je suis le nouvel arpenteur. Bon, c'est faux. Il ment, mais ça, on ne le saura pas. Et donc, par l'autorité qu'il s'est donnée lui-même, il devient l'arpenteur du château. Arpenter quoi ? On ne sait pas trop, mais il est l'arpenteur. Bon. Et en réalité, K n'a qu'une seule envie, c'est de pénétrer dans le château. Mais personne n'entre dans le château. Et donc là, il va commencer à nouer une sorte de relation érotique au début, puis amoureuse avec la fille de l'auberge, la fille de salle, qui elle-même est l'ancienne maîtresse de l'émissaire du château. Et l'émissaire du château, qui s'appelle Krams aussi, qui a une K comme lettre de nom de famille, personne semble trop le cerner, on a du mal à le décrire physiquement. Certains disent qu'il change de forme, ce qui renvoie d'ailleurs, rappelez-vous, au cauchemar de Kafka, hein, ces femmes qui changeaient de visage. Et il y a une sorte comme ça de relation étrange qui s'établit avec une jeune femme qui va d'un cas à l'autre et sans qu'à aucun moment on puisse rentrer dans le château. Et un jour, K, l'arpenteur autoproclamé, découvre deux espèces de crétins, braillards, insupportables et tout, et qui se disent eux-mêmes être les assistants de K envoyés par le château. Et les rares moments où K va être en contact avec le château, c'est par le téléphone. Et sur ce, fin de l'histoire, parce que le roman est interrompu par la mort de Kafka. Bon, donc ça s'arrête comme ça, ça s'arrête brutalement. Mais il y a quand même des choses à dire. Alors la première chose à dire, c'est que un roman n'a pas de fin s'il n'est pas achevé. Si vous regardez un film et que vous arrêtez le film pour aller vous faire un sandwich, ben le film, il est fini, mais il n'est pas achevé. Donc, la fin d'un roman accompli, c'est une fin qui correspond à l'achèvement. Quand vous avez un récit où il y a juste une fin parce qu'il y a un terme accidentel, la mort de Kafka, ben on doit faire avec, mais il n'est pas achevé. Et pourtant, il y a quand même pas mal de choses à dire, et notamment un certain nombre de contresens qui sont intéressants, à commencer par le téléphone. Détail qui peut paraître secondaire, mais qui est en fait très important. C'est un récit qui date de 1925. Bon, le téléphone est déjà pas mal installé en Europe, à Londres et à Paris en tout cas. À Prague, pas du tout, c'est absolument pas le cas. Or, nous, lecteurs de la modernité, on peut y voir un élément de confort. Il peut parler avec avec le château par téléphone, alors que, en fait, le téléphone dans le récit de Kafka, c'est un instrument de torture, tout simplement parce que on sait par le journal, cette fois-ci, de Kafka, que Kafka détestait le téléphone parce qu'il n'y avait pas le téléphone à la maison et qu'il devait aller à la poste de Prague. Poste qui demandait 4 heures d'attente pour passer un appel qui pouvait durer pas plus que 9 minutes. Et donc, vous voyez les contresens qu'on peut faire. C'est-à-dire que le téléphone chez Kafka, c'est pas du tout l'outil de la modernité, ou alors c'est une modernité dangereuse, comme l'était la machine de la colonie pénitentiaire tout à l'heure. Et puis surtout, on sait rien du château, tout comme on sait rien du procès, sinon que si on fait une lecture religieuse, ce château auquel tout le monde veut aller, dont on reçoit les ordres, mais finalement auquel on ne peut pas pénétrer, ou en tout cas on ne connaît personne de vivant qui a pu pénétrer dans le château, bah, une lecture religieuse, ça pourrait être le paradis. Mais c'est peut-être tout simplement aussi un château. Or là, il y a un parallèle étonnant, intéressant, que certains connaissent ici. Je plaisantais sur la fantaisie tout à l'heure, alors que je vous évoquais un chef-d'œuvre de fantaisie qui est absolument remarquable, c'est la trilogie Gormenghast de Mervyn Peake, je ne sais pas si certains connaissent. Gormenghast, qui écrit bien après, Mervyn Peake naît en 1911, donc c'est un contemporain, mais décalée de Kafka. La trilogie Gormenghast raconte comment, dans un château où chambres et portes innombrables, vit une famille qui est complètement coupée de l'extérieur. C'est-à-dire que la famille vit dans un château-monde et ignore même l'existence de l'extérieur pour certains, et certains même pensent que l'extérieur est une fable, que ça a été inventé, que le château, en réalité, c'est le monde. Et ce château, qui est amplement décrit dans les deux premiers volumes de la trilogie, le héros, Titus, va finir par le quitter et s'engager dans l'extérieur, dans la campagne, dans les villages. Et là, il va se rendre compte que tout ce qui, pour nous, est ordinaire, en tout cas dans l'ordinaire de cet univers-là, est absolument incompréhensible, etc. Et je trouve joli que, sans qu'il y ait véritablement de relation entre Kafka et Mervyn Peake, il y ait quand même comme une déclinaison du même thème, l'un disant que le château, c'est l'endroit où il faut aller, alors que Peake dira que le château, c'est l'endroit qu'il faut quitter. Voilà en gros ma lecture de Kafka. Donc si vous voulez, maintenant, on peut... Il reste 5 ou 10 minutes, je ne sais pas. 5 minutes, très bien. Répondre à des questions. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour cette lecture assez inspirante d'ailleurs de Kafka. Moi j'avais une question qui concerne en fait simplement le titre de la... Enfin j'aurais deux questions. La première question que je voulais vous poser, c'est ça concerne le titre en fait de cette lecture, les voies de la limite. Il me semble que dans tous les exemples que vous avez proposés, que vous avez esquissés, que vous avez interprétés, en fait cette limite finalement, elle, que ce soit la porte que Kafka ne, que le personnage de l'avatar de Kafka ne franchit pas, ou ce château qui est impénétrable, ou et qui en plus le roman se termine avant de pouvoir fondamentalement qu'on ait la fin. Le procès où on ne sait jamais finalement ce qui va se passer ou pourquoi est-ce qu'il est coupable. Enfin, cette limite, elle est finalement toujours chez Kafka esquissée et elle n'est jamais franchie. Et en tant qu'auteur, qui plus est en tant qu'auteur qui a écrit un texte sur Kafka, Kafka à Paris, dans quelle mesure est-ce que vous comprenez cette infranchissabilité de la Est-ce que la limite chez Kafka est infranchissable? Voilà. Et si on la franchissait, qu'est-ce qu'il y aurait derrière? Est-ce que vous, en tant qu'auteur, qui avez écrit un livre sur Kafka, est-ce que ce n'est pas franchir la limite aussi de cette interprétation-là?
C'est une magnifique question, mais il nous faudrait enfin livrer des pizzas et rester une heure de plus, parce que, une sorte comme ça de millefeuille de limite. La première, c'est celle que j'évoquais au début, c'est la lecture française de Kafka l'œuvre et de Kafka l'homme. C'est-à-dire que nous avons limité Kafka à une ère qui était, pour faire simple, pré-existentialiste. Vous voyez, sombre, la vie est absurde, etc. Donc, première limite, elle est typiquement française. Nous ne lisons pas le même Kafka que celui qui peut être lu à Prague, par exemple. Vous voyez. Donc, première limite, donc notre lecture française, elle est orientée. On s'en dégage depuis une vingtaine d'années, mais elle a longtemps été orientée. En gros, c'était Camus avant Camus, quoi. Voilà. Bon. La deuxième, c'est que, mais vraiment, c'est très juste, hein. Kafka lui-même instaurait des limites strictes dans sa vie, c'est-à-dire qu'il était le fils de famille modèle, alors que dans la lettre à son père, il a des mots terribles auprès de son père, mais dans son rôle familial, il était le fils modèle. Il était le docteur en droit et employé des assurances modèle. On a gardé les notations administratives le concernant. Il a une évolution de carrière qui est brillante. C'est l'employé modèle. Et il écrivait dans une limite aussi, qui était la nuit, à condition qu'il n'y ait pas de bruit. Et chez Kafka, un bruit, c'est trois fois rien, hein. Donc, effectivement, c'est un homme de limite, déjà, au départ. Et c'est un homme qui écrit sur la limite en sachant la réinventer. Vous voyez, mon corps devient monstrueux du jour au lendemain. Il va falloir poser des nouvelles limites. Il va falloir tu es coupable d'avoir fait ça. Ben, on va te cadrer littéralement, la machine est rectangulaire, et on va t'inscrire pour que tu restes dans la limite. C'est vrai que la limite est un motif carrément chez Kafka, mais alors là, pour le coup, aussi bien l'homme que l'écrivain. Oui.
Et en fait, où ça franchit la carapace.
Oui.
Et finalement, ça finit par le tuer.
Oui, elle s'infecte et voilà, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, c'est un des rares cas de franchissement de limite où toujours le père, hein, où au commandement du père, va se noyer, il saute dans le pont. Là aussi, il y a franchissement de limite. Et c'est toujours la mort du fils qui s'en suit. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Je crois que monsieur avait une... C'est bon ? Ben merci beaucoup à tous et bon festival.